VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce mardi 10 février 2015. À la une ce soir.
Naufrage sur le fleuve Congo en RDC, 7 personnes au moins sont mortes et une dizaine étaient portées disparues ce soir selon le gouvernorat de la province orientale.
En Centrafrique, des combats ont opposé les forces internationales à des éléments de l'ex-Séléka Bria.
La population reste cachée, d'autres ont fui dans la nature pour éviter les affrontements.
Boko Haram a encore frappé dans le nord du Cameroun. 12 personnes enlevées ont été exécutées par les islamistes nigérians.
Au Niger, le Parlement a donné son feu vert à l'envoi de troupes au Nigeria pour combattre Boko Haram.
Fin de la trêve au Soudan du Sud. Le gouvernement accuse les rebelles d'avoir bombardé ses positions à Bentiu.
Les pourparlers entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord débutent demain à Alger.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. 7 personnes au moins sont mortes et une dizaine étaient portées disparues après le naufrage d'une embarcation sur le fleuve Congo dans le nord-est de la République démocratique du Congo, rapporte l'AFP qui cite le gouvernorat de la province orientale. Selon des sources locales, le bilan du drame pourrait cependant être plus élevé. Les naufrages sont fréquents en RDC, rappelle-t-on, avec des bilans parfois très lourds. Fin décembre, en province orientale, au moins 30 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau surchargé sur le fleuve Congo, provoquant la colère de jeunes qui ont incendié les bâtiments publics.
En Centrafrique, des combats ont opposé les forces internationales à des éléments de l'ex-Séléka Bria dans le centre-est du pays. La MINUSCA et Sangaris sont repris et certains édifices publics. Il n'y a aucun bilan précis, mais il y a des morts et des blessés. Le point à Bangui avec Thierry Missongo du réseau des journalistes des droits de l'homme.
Il s'agit, selon les témoignages, d'une attaque menée contre la position des Séléka qui ont occupé la ville de Bria depuis. Et donc, ces forces internationales sont parties juste pour déloger ces forces non conventionnelles qui contrôlent cette zone depuis la prise de la République centrafricaine par la coalition Séléka. Donc, il s'agit d'un général Arda qui serait au contrôle de cette ville. Donc, c'est lui et ses éléments qui ont été attaqués ce matin par la force internationale en mission de consolidation pour la paix en Centrafrique.
Mais quelle situation prévoit à l'heure actuelle à Bria?
On nous fait savoir que le général Arda qui contrôle cette zone serait capturé. D'autres informations nous font savoir qu'il serait en fuite sur l'axe de Wadja qui va jusqu'à Samwanja et qui mène aussi jusqu'à Verndélé. Mais la population reste cachée dans la maison. D'autres ont fui dans la nature pour éviter les affrontements. Nous cherchons encore à confirmer ces informations pour avoir une idée exacte sur la situation de la ville de Bria.
Le journaliste Thierry Missongo, joint à Bangui par Félix Yepassis Zembro.
20 Camerounais ont été enlevés dans le nord du Cameroun par des combattants de Boko Haram qui ont ensuite exécuté 12 d'entre eux. C'est ce que rapportent ce mardi plusieurs agences de presse dont l'AFP et Associated Press. On fait le point avec Jacques Aristide.
Les passagers kidnappés se trouvaient à bord d'un bus qui a été intercepté par les islamistes nigérians, d'après une source sécuritaire au Cameroun, qui a précisé que le véhicule venait de Kosa et se rendait à Mora, deux villes situées à quelques dizaines de kilomètres l'une de l'autre, près de la frontière nigériane. Selon la même source, de simples citoyens sont régulièrement enlevés dans la région sans que cela émeuve personne. Certains sont souvent libérés lorsque leur famille négocie, alors que d'autres sont tués. Depuis des mois, Boko Haram multiplie les attaques contre des cibles civiles et militaires dans le nord du Cameroun. Une cinquantaine de militaires camerounais ont déjà perdu la vie dans cette région depuis le début des attaques, au mois de juillet.
Au Niger, le Parlement a donné son feu vert à l'envoi de troupes au Nigeria pour combattre Boko Haram, mais à Diffa, dans le sud-est du pays, la psychose s'installe, Idriss Fall.
À Diffa, la capitale provinciale du sud-est du pays, la population fuit par crainte de nouvelles attaques des islamistes de Boko Haram. Hier, une autre explosion dans le secteur de la douane a fait au moins 5 morts et 16 blessés. Depuis vendredi, la ville a subi des attaques répétées. Devant le Parlement, hier, le ministre de la Défense, Mahamadou Karidjo, a affirmé que la situation à Diffa est grave et dramatique. Les 102 députés de l'Assemblée nationale ont approuvé à l'unanimité l'envoi de troupes pour combattre Boko Haram au Nigeria. Le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin se sont entendus samedi pour créer une force régionale de 8700 hommes pour faire face aux djihadistes. Le PAM, Programme alimentaire mondial, est préoccupé par la violence des attaques de Boko Haram, a indiqué sa porte-parole à Genève, Elisabeth Buzz. 125 000 réfugiés nigérians se trouvent dans la région de Diffa depuis 2013, une région qui fait frontière avec l'État de Borno, fief de Boko Haram au Nigeria.
Le Premier ministre malien est arrivé à Alger. Sa visite intervient alors que les pourparlers entre le gouvernement malien et 6 mouvements armés du nord du Mali doivent débuter demain dans la capitale algérienne. Le Mali n'a d'autre choix que de s'inscrire dans une dynamique de paix, estime Modibo Keïta, cité par l'agence de presse algérienne APS. Le Premier ministre malien espère que les pourparlers déboucheront rapidement sur un accord. Levé de rideau sur ces négociations en seconde partie d'émission.
Au moins 16 morts et 14 blessés, tel est le bilan des affrontements entre l'armée somalienne et une milice soufie à Gouricel, à 400 km au nord de la capitale, Mogadiscio. D'après l'AFP, les affrontements semblent avoir été alimentés par un projet de gouvernement régional.
Reprise des hostilités au Soudan du Sud, le gouvernement accuse les rebelles d'avoir bombardé ses positions à Bentiu, ville pétrolière du nord du pays. Des travailleurs humanitaires cités par l'AFP ont confirmé les bombardements. Djouba promet donc de riposter. La trêve signée début février n'aura donc pas tenu longtemps. Il s'agissait du 7e cessez-le-feu en un an.
Aux Comores, l'opération Île Morte se poursuit pour la seconde journée consécutive. Des manifestants ont dénoncé les pénuries d'eau et d'électricité. L'armée est intervenue notamment à Mitsoudje, près de la capitale Moroni, faisant 7 blessés, dont un grave. C'est ce que rapporte l'AFP citant la police. En revanche, à Moroni, la capitale, la vie reprenait progressivement son cours normal à la mi-journée, après l'intervention des forces de l'ordre qui ont dégagé les barricades. Ne marquez pas notre magazine sur le délestage en Afrique du Sud, en seconde partie d'émission.
Plus de 600 migrants ont tenté de franchir la frontière séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. Seuls 35 y sont parvenus, dont 5 ont été blessés, ont annoncé les autorités de Melilla, citées par l'AFP.
Le gouvernement de la Guinée-Bissau veut mettre fin au trafic de passeports diplomatiques. Les autorités disent avoir découvert plus de 1600 documents frauduleux détenus par des personnes qui n'ont absolument aucun lien avec la diplomatie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les diplomates européens, russes et ukrainiens travaillent d'arrache-pied à l'élaboration d'un texte qui servira de matrice à leurs dirigeants pour un plan de paix à négocier au cours du sommet de Minsk, prévu ce mercredi. Tous les espoirs se fondent sur l'issue de ce sommet demain en Biélorussie entre Vladimir Poutine, Petro Poroshenko, François Hollande et Angela Merkel. C'est pour certains un plan de dernière chance qui vise à mettre fin à 10 mois de guerre. Mais selon une source diplomatique française citée par l'AFP, les négociations sont difficiles et achoppent sur plusieurs sujets litigieux.
Sur le terrain, les violences continuent. L'AFP rapporte que l'état-major de l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine a été bombardé ce mardi pour la première fois depuis le début de la guerre. L'administration régionale de Donetsk fait état de 5 civils tués et 16 blessés, dont 2 enfants, dans une attaque à la roquette. 10 soldats ukrainiens ont été également blessés quand une roquette a touché une piste d'atterrissage. Les combats dans l'est de l'Ukraine ont fait plus de 5300 morts depuis 10 mois.
Les Émirats arabes unis ont repris ce mardi leur participation au raid de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Il y a 3 mois, le pays avait suspendu ses frappes suite à la capture d'un pilote jordanien en Syrie qui a ensuite été exécuté. Nicolas Pineau nous en dit plus.
Oui, dans un communiqué, le commandement militaire émirati a annoncé que des avions de l'escadron de F-16 positionnés en Jordanie ont lancé ce mardi matin des raids contre des positions du groupe terroriste, atteignant leur objectif et regagnant leur base sans dommage. Le communiqué émirati ne précise pas dans quelle région les raids ont été lancés. Par ailleurs, dans un entretien à la BBC, le président Bachar el-Assad a lui affirmé être tenu au courant des raids aériens de la coalition dans son pays contre les djihadistes de l'État islamique. Parfois, ils transmettent un message général, il n'y a pas de dialogue, il y a, disons, information, a-t-il dit en s'exprimant en anglais. Les messages transitent par des pays tiers, l'Irak et d'autres nations, affirme Bachar el-Assad, alors que la guerre civile en Syrie a débuté depuis bientôt 4 ans.
Washington a confirmé aujourd'hui la mort d'une Américaine détenue en Syrie par le groupe État islamique. Il y a 4 jours, les djihadistes avaient fait savoir que la travailleuse humanitaire Kayla Mueller a été tuée lors d'une frappe de l'aviation jordanienne contre la ville de Raqqa, bastion de l'État islamique. Les circonstances de sa mort n'ont pas été rendues publiques et la déclaration de la Maison-Blanche n'offre aucun détail y relatif. Kayla Mueller avait été kidnappée en Syrie en 2013.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Les Ivoiriens, fraîchement vainqueurs de la CAN 2015 et chèrement récompensés.
Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a offert 2 milliards de francs CFA aux éléphants footballeurs vainqueurs dimanche de la 30e Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Chaque joueur reçoit une villa d'une valeur de 30 millions et 30 millions de francs CFA en espèces. L'entraîneur Hervé Renard reçoit 75 millions de francs CFA. Quant au staff technique et administratif, il reçoit 300 millions de francs CFA. Ces dons ont été annoncés au cours d'une cérémonie de distinction de tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette équipe des éléphants.
Issa Ayatou, lui, pense déjà à 2016.
Le président de la Confédération africaine de football depuis 1988, Issa Ayatou, 68 ans, jouerait volontiers les prolongations. Dans l'état actuel des statuts de l'instance continentale, les membres âgés de 70 ans doivent démissionner. Si les choses restaient en l'état, le dirigeant camerounais serait donc dans l'impossibilité de briguer un nouveau mandat de 4 ans en 2017, car il aurait 71 ans. Aussi, une modification des textes est-elle à l'étude afin de lever cette limite d'âge. Interrogé par Reuters, Kwesi Nyantaki, président de la Fédération ghanéenne et membre du comité exécutif de la CAF, explique que la FIFA ne prévoit pas de limite d'âge pour ses dirigeants. La CAF entend simplement se mettre en conformité avec cela.
Coupe du monde des moins de 20 ans, Nouvelle-Zélande.
Les Argentins, qui ont déjà remporté 6 fois le mondial des moins de 20 ans, affronteront dans le groupe B le Panama, l'Autriche et le futur 3e du championnat d'Afrique des moins de 20 ans, disputé en mars. Autre favori, l'Allemagne est également dans une situation favorable dans le groupe F, où elle affrontera l'Ouzbékistan, le Honduras et les îles Fidji.
La NBA, championnat de basket nord-américain. Je vous laisse donner quelques résultats de la nuit.
L'entraîneur de San Antonio, Greg Popovich, est entré hier dans le cercle fermé des entraîneurs ayant remporté 1000 victoires en NBA grâce au succès des Spurs sur le parquet d'Indiana, 95-93. Golden State demeure la meilleure franchise de la saison en cours après s'être imposée à Philadelphie, 89-84. Leader à l'Est, Atlanta s'est logiquement imposé 117-105 à Minnesota, lanterne rouge de la conférence Ouest. Autre résultat, Dallas et les Clippers, 98-115. New York qui s'incline une nouvelle fois face à Miami, 95-109. Victoire d'Oklahoma City à Denver, 124-114. Succès de Milwaukee sur Brooklyn, 103-97. La Nouvelle-Orléans qui chute à domicile contre Utah, 96-100. Et la victoire de Washington sur Orlando, 96-80.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas. La Minute Éco, c'est l'actualité économique avec Nathalie Barge. Nathalie, la grève générale continue au Gabon.
Oui, lundi, le mouvement dynamique unitaire a rencontré le Premier ministre pour exiger de parler au président Ali Bongo. Aminata Ndjomba, présidente du syndicat des agents des organes de communication du service public.
Quel que soit ce qui peut se faire, c'est-à-dire que le président nous reçoive ou pas, nous sommes en grève générale illimitée. Et nous ne reprendrons le travail que lorsque le nouveau système de rémunération sera appliqué.
Le Fonds de développement Chine-Afrique va installer un bureau à Nairobi pour coordonner l'ensemble de l'activité en Afrique de l'Est, a annoncé Wang Yong, le vice-président du CADEF, à l'issue d'une rencontre avec le vice-président kényan William Ruto. Monsieur Wang a précisé que ce bureau devrait être opérationnel au mois de juin, notamment pour investir dans l'agro-industrie et l'énergie. Le marché africain de l'investissement sera au centre des travaux de la 3e édition du Forum international Afrique-Développement qui se tiendra les 19 et 20 février à Casablanca, a annoncé le PDG du groupe Atidjari Wafa Bank. et la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 38,5 millions de francs CFA sur le Fonds des énergies durables pour l'Afrique afin d'assurer la préparation du premier projet de production indépendante d'énergie solaire au Cameroun, a indiqué le journal en ligne La Nouvelle Tribune.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Les nombreuses incursions du groupe islamiste nigérian Boko Haram au Cameroun affectent le transport et le commerce dans la région camerounaise de l'extrême nord. Les attaques contre les véhicules, souvent suivies de meurtres et d'enlèvements, découragent le mouvement des biens et des personnes dans cette région. Timothée Donangmaï a recueilli le témoignage d'Aboubakari Abdoulaye, délégué régional du commerce de l'extrême nord camerounais.
Oui, effectivement, il y a eu quelques attaques de Boko Haram, notamment sur l'axe Maroc, qui ont eu pour effet de réduire la circulation, notamment des véhicules transportant des personnes, réduisant ainsi la mobilité des personnes vers le département de Jérusalem, dont le service de sécurité, un grand centre de défense de la ville. Néanmoins, en termes de biens, les véhicules, les camions continuent de circuler, souvent sous escorte, mais les mesures de sécurité sont prises pour permettre la circulation de biens en direction de cette zone-là, au point que jusque-là, on ne déplore pas des problèmes d'approvisionnement de manière très accentuée au niveau du département de l'économie. Mais il est vrai que les mesures de sécurité sont prises et ont donc pour effet de réduire la circulation des personnes et des biens. Mais le problème n'a pas impacté sur les approvisionnements de manière pratique dans les départements de l'économie.
Qu'en est-il du commerce avec le Nigeria qui était très intense avec l'extrême nord?
Oui, effectivement, vous savez que l'affecte Boko Haram a pour base l'état de Borno, qui est l'état frontalier de la région de l'extrême nord, avec lequel effectivement nous entretenons des échanges intenses soutenus et de favoriser aussi bien la proximité géographique que les liens socio-culturels des populations. Bon, avec donc l'inclusion de l'élection de la fête Boko Haram dans cette partie de l'État du Nigeria, et plus tard des effets, des attaques, des incursions dans notre région, ces échanges sont pratiquement à l'arrêt. Et les populations ont pu se orienter plutôt vers d'autres sources d'approvisionnement avec concernant la politique qui nous venait du Nigeria, notamment de la partie de la région du Nord, dont la frontière avec l'État du Nigeria ne connaît pas s'il y a des problèmes. Si bien que la région du Sénat ne connaît pas de problèmes d'approvisionnement par rapport aux produits qui viennent du Nigeria, mais les produits qui sortent de l'extrême nord via l'état de Borno ne sortent plus. Mais ce n'est pas une mauvaise situation pour la région du Sénat parce que les produits qui sortaient, c'était surtout des produits ouvriers, ceux qui relevaient leur prix sur le marché avec les pénuries en saison. Le fait donc que ces produits ne sortent pas les rendent disponibles sur nos marchés avec des prix accessibles.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Après avoir écouté Aboubakari Abdoulaye, le délégué régional du commerce de l'extrême nord camerounais, parlons maintenant des pourparlers intermaliens qui débutent demain à Alger. Avant la reprise des discussions avec les groupes armés du Nord, le gouvernement malien a échangé avec la classe politique et la société civile sur le projet de pré-accord. Table ronde au cours de laquelle les participants ont exigé le retrait des termes Azawad ou région intégrée des documents de travail. La valorisation de la justice coutumière a également été rejetée. Correspondance de Kassim Traoré.
Pendant les deux jours qu'on dirait cette table ronde, le gouvernement et la classe politique, hormis l'opposition qui n'a pas voulu participer aux travaux, la société civile était face à face afin d'apporter des amendements au projet de préaccord proposé par la médiation. Younous Ahmed Diko de la majorité présidentielle dénonce l'usage du mot Azawad.
Lorsque on veut nous faire admettre un terme comme Azawad, nous ne le connaissons pas. Il ne suffit pas de prendre des armes pour nous dire que votre pays à tel endroit s'appelle Sénégal, Azawad ou un autre nom. Nous-mêmes qui habitons là-bas, nous ne connaissions même pas ce terme-là. C'est dans ces rébellions que nous avons appris ce terme. Or, nous étions quand même là, bien avant quiconque. Nous savions quel nom nous donnions au sol sur lequel nous habitions.
La société civile malienne a mis l'accent sur des termes comme la valorisation du Kadi ou la justice coutumière et l'appellation des régions intégrées.
Quand on nous parle de Kadi, depuis que le Mali est Mali, les Kadi ont existé au Mali et ils ont exercé. Mais pourquoi aller mettre ça dans un document qui doit être validé à Alger si ça ne cache pas autre chose?
Pour les ministres de la Réconciliation nationale, les amendements apportés par la classe politique et la société civile ont une place de choix dans le mémorandum du gouvernement malien. Zabi Sidi Ould Mohamed.
Ce dont nous nous réjouissons de manière générale, c'est que beaucoup des remarques faites par nos compatriotes rejoignent un peu le mémorandum que le gouvernement avait élaboré par rapport à toutes ces questions. On s'est retrouvé sur beaucoup de questions.
Lors de la conférence de presse de restitution de cette table ronde, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a fait savoir que les pourparlers vont reprendre ce mercredi à Alger. Il faut signaler que la délégation malienne quitte Bamako ce mardi 10 février 2015. Elle sera conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
125 000 réfugiés nigérians se trouvent dans la région de Diffa, frontalière avec l'état de Borno au Nigeria. Ces personnes ont fui les exactions de Boko Haram dans leur pays, mais depuis vendredi, les djihadistes ont lancé des attaques répétées sur la ville de Diffa, dont la dernière en date hier a fait au moins 5 morts. Le Programme alimentaire mondial se dit très préoccupé. Idriss Fall a joint Elisabeth Beers, porte-parole du PAM à Genève.
Nous sommes particulièrement inquiets par les attaques et la violence qui ont eu lieu dans cette région ces derniers jours. Il y a des centaines de déplacés qui fuient l'est du Nigeria et qui se dirigent vers la ville de Diffa. Et nous avons des problèmes liés à la sécurité dans cette région qui gênent les opérations humanitaires.
Est-ce que les sites sont proches de la frontière ou bien ont été déplacés?
Les personnes se regroupent dans 3 camps qui se trouvent dans la région de Diffa. Et malheureusement, avec les incursions et les clashs, nous avons dû temporairement interrompre nos distributions alimentaires dans le camp de Sayam Forage. Nous espérons pouvoir de nouveau reprendre nos distributions dès que la sécurité va le permettre.
Elisabeth Beers, porte-parole du PAM à Genève.
Jacques Aristide, avec vous ce jeudi dans Washington Forum, le report très critiqué des élections au Nigeria face au danger Boko Haram. Une crise électorale se profile-t-elle à l'horizon dans ce pays fragilisé? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Les problèmes de délestage sont un thème récurrent dans plusieurs pays africains, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Ce soir, un coup d'œil sur l'Afrique du Sud, Morgane.
Les récentes difficultés confrontées par le secteur de l'énergie en Afrique du Sud ont donné lieu à une levée de boucliers à travers le pays contre la mauvaise gestion de la compagnie d'État Eskom. Et si les plus nantis arrivent à s'en sortir, la situation est plutôt critique pour la grande majorité de la population. Lionel Gaïman nous en dit plus.
Sheila Twala est âgée de 63 ans. Elle vit à Soweto, un township de Johannesburg, depuis 14 ans. Dépourvue d'une source de revenus, elle dépend entièrement de l'électricité subventionnée par le gouvernement, contrairement aux plus fortunés qui peuvent s'acheter des générateurs, des panneaux solaires, des fours et autres appareils pour leurs besoins en énergie. Comme Twala, des millions de Sud-Africains ne reçoivent plus depuis quelque temps un service constant de l'entreprise publique Eskom et elle ne cache pas sa frustration.
Nous étions très contents de voter pour des Noirs au gouvernement. Nous étions certains qu'avec des Noirs au pouvoir, nous n'aurions plus à souffrir comme au temps de l'apartheid. Mais c'est dommage. Maintenant, notre gouvernement noir nous fait souffrir.
Il faut dire que pour les gens comme Sheila Twala, le délestage peut durer plusieurs jours, voire toute une semaine, et personne ne sait quand cette situation va changer. Eskom, qui est un monopole de l'État sud-africain, avoue qu'un manque d'investissement, un entretien inadéquat, des bas tarifs, une dette énorme et le retard dans la construction des nouvelles centrales électriques vont obliger la compagnie à poursuivre pendant plusieurs années sa politique de délestage programmée afin d'empêcher l'effondrement du réseau dans son ensemble. Tableau plutôt sombre pour ces millions de Sud-Africains, la majorité de la population qui ne gagne pas plus d'un dollar 25 par jour. Utiliser du bois pour la cuisson est une option peu réjouissante, dit Twala.
C'est une torture extrême. La fumée emplit mes yeux, le four est trop chaud, mais je dois quand même faire à manger. De plus, nous allons en brousse pour recueillir le bois. Je ne peux même pas exprimer la souffrance que nous traversons en hiver.
Les élèves aussi se plaignent des délestages. Ce jeune de Soweto, Phineas Ngomane, a 20 ans. Il dit que c'est dangereux d'utiliser des bougies pour étudier. Souvent, le travail est mal fait et ils perdent 2 points. À travers toute l'Afrique du Sud, la plainte est la même. Eskom doit rétablir la livraison régulière du courant électrique, ce qui, dans les circonstances actuelles, est loin d'être une probabilité.
Salut les amis, Roger Moutou, VOA Afrique. Aujourd'hui, mardi, vous allez écouter de la bonne musique, promis, du bon rap et R&B seulement ici dans RM Show. Mais aussi notre sujet de la semaine qui commence aujourd'hui, très important, ne ratez pas la question. Que doit-on retenir de cette CAN 2015 qui vient de s'achever? Quel est le bilan selon vous? Citez quelques événements de la CAN qui vous ont marqué. Plusieurs polémiques ont éclaté durant le tournoi de la CAN 2015. Citez-en quelques-unes les amis. Seulement ici dans RM Show, ne ratez pas cette semaine. On va attaquer moi. Donc ne ratez pas, appelez au 001-202-619-3140. Notre groupe Facebook, c'est Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez à l'écoute de cette émission sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Sept personnes au moins sont mortes et une dizaine étaient portées disparues après le naufrage d'une embarcation sur le fleuve Congo dans le nord-est de la République démocratique du Congo, rapporte l'AFP qui cite le gouvernorat de la province orientale.
En Centrafrique, des combats ont opposé les forces internationales à des éléments de l'ex-Sédéka, Bria, dans le centre-est du pays. La MINUSCA et Sangaris ont repris certains édifices publics. Il n'y a aucun bilan précis, mais il y a des morts et des blessés.
20 Camerounais ont été enlevés dans le nord du Cameroun par les combattants de Boko Haram, qui ont ensuite exécuté 12 d'entre eux, rapportent ce mardi plusieurs agences de presse, dont l'AFP et Associated Press.
Et au Niger, le Parlement a donné son feu vert pour l'envoi de troupes au Nigeria pour combattre Boko Haram.
Le premier ministre malien Modibo Keïta est arrivé à Alger. Sa visite intervient alors que les pourparlers entre le gouvernement malien et 6 mouvements armés du nord du Mali doivent débuter demain dans la capitale algérienne.
Au moins 16 morts et 14 blessés, tel est le bilan des affrontements entre l'armée somalienne et une milice soufie à Gouricelle, à 400 km au nord de la capitale, Mogadiscio. D'après l'AFP, les affrontements semblent avoir été alimentés par un projet du gouvernement régional.
Reprise des hostilités au Soudan du Sud. Le gouvernement accuse les rebelles d'avoir bombardé ses positions à Bentiu, ville pétrolière du nord du pays. Des travailleurs humanitaires ont confirmé les bombardements et Djouba promet de riposter.
Aux Comores, l'opération Île Morte se poursuit pour la seconde journée consécutive. Des manifestants ont dénoncé les pénuries d'eau et d'électricité. L'armée est intervenue notamment à Mitsoudje, près de la capitale Moroni, faisant 7 blessés, dont un grave. C'est ce que rapporte l'AFP, citant la police.
Le gouvernement de Guinée-Bissau veut mettre fin au trafic de passeports diplomatiques. Les autorités disent avoir découvert plus de 1600 documents frauduleux.
Les Émirats arabes unis ont repris ce mardi leur participation au raid de la coalition internationale contre le groupe État islamique.
Et le monde diplomatique a les yeux rivés sur Minsk en Biélorussie. Les diplomates européens, russes et ukrainiens travaillent d'arrache-pied à l'élaboration d'un texte qui servira de matrice à leurs dirigeants pour un plan de paix à négocier au cours du sommet de Minsk prévu demain entre Vladimir Poutine, Petro Poroshenko, François Hollande et Angela Merkel.
La mise en onde de cette édition a été assurée par Amkoulel ou...
Ici à Kaba.
Voilà.
Elle était assistée de qui ? De Nick Ivanov à la console technique, il ne faut pas l'oublier.
Ah non, on n'oublie pas. À la présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM, 99.5, Cancan, Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.